Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est Maître Laurent Dubois. Maître Laurent Dubois est avocat au barreau de Paris depuis 1972, mais il a très peu exercé au barreau de Paris puisqu'il s'est assez vite envolé. Je vous laisse la surprise de où est-ce qu'il s'est envolé ou plutôt vers où est-ce qu'il a cheminé. Mais en tout cas, il a atterri au Japon et c'est au Japon qu'il a principalement développé sa carrière. Et jusqu'à aujourd'hui, être associé du cabinet TMI et associé, du cabinet d'avocat TMI associé, où il exerce, il accompagne notamment les entreprises étrangères et les entreprises françaises dans leur installation au Japon. Ainsi que sur d'autres sujets, d'autres types de dossiers, il faut aussi de l'arbitrage, enfin c'est une activité assez protéiforme. Ça a été une interview très intéressante, très enrichissante. Je pense qu'on a bien évoqué notamment des sujets générationnels de comment est-ce qu'on envisageait l'avenir quand on faisait ses études supérieures et qu'on commençait sa carrière dans les années 1960 et au début des années 1970. Et puis on a aussi beaucoup parlé de différences culturelles entre le Japon et la France et de comment est-ce qu'on existe. Enfin, moi, c'est un échange qui m'a énormément plu. Alors, il y a eu un petit souci avec le son et ma voix s'est mal enregistrée. Et donc, je vous ai épargné une voix grésillante et j'ai réenregistré mes questions et mes interventions. Donc, ça fait un petit peu étrange. J'ai essayé de faire ça de la manière la plus naturelle possible. C'était tout un exercice que de me réécouter et d'essayer de réimiter ma voix et mes intonations. Mais voilà, en tout cas, ça vous restitue quand même notre échange. Et le plus important reste quand même les propos de Laurent Dubois et son parcours. Donc c'est pour ça que je n'ai pas eu trop de doutes à quand même diffuser cette interview. Je voudrais remercier d'abord Maître Flore Polony pour sa recommandation. Je voudrais aussi recommander Camille Géniaud pour son avis sur Apple Podcast. Et je vous invite tous à laisser un avis si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que vraiment, c'est hyper utile pour le podcast, c'est important en termes d'algorithme pour faire connaître ce projet. Et je remercie, comme d'habitude maintenant depuis plusieurs semaines, Aude Coche, qui est donc ma stagiaire et qui s'est occupée en grande partie de la post-production et notamment cette semaine du gros travail de réintégration de mes interventions dans le cadre de l'échange avec Laurent. Donc gros travail de montage et je dis bravo à Aude et vous pouvez la remercier tous intérieurement. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine.
Bonjour Laurent Dubois.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
C'est un plaisir.
Alors Laurent, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat.
Je m'attendais à votre question, bien sûr, hein, mais c'est une question à laquelle j'ai toujours un peu de mal à répondre. Parce que, en fait, quand j'y réfléchis, c'est à la fois un mélange de hasard, de prédestination et de choix. Donc cet ensemble fait que si on veut expliquer un par un, ça devient un peu compliqué. Mais si je veux essayer de simplifier, je pense qu'il y a plusieurs catégories de gens. Il y a des gens qui ont une vocation, et en particulier c'est d'être avocat, c'est d'être médecin, pour lesquels les choses sont très claires. Pour moi, c'était pas ça. C'était pas du tout de cet ordre-là. C'était encore une fois un mélange de prédestination, de choix. Et à l'origine, j'avais plutôt l'intention de... Disons que pour simplifier, j'étais formaté pour devenir avocat. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de faire le droit.
Pourquoi étiez-vous formaté pour faire avocat?
De par plusieurs facteurs, mais qui étaient des facteurs plutôt familiaux, qui faisaient que ma famille était une famille des magistrats. Et puis, je sais pas pourquoi, depuis que j'étais assez enfant, comme j'aimais beaucoup parler, on me disait avec un peu de condescendance, tu seras soit diplomate, soit avocat. Et quand je me demandais pourquoi, ils me disaient, mais parce que tu adores parler y compris parler pour ne rien dire, ce que je trouvais pas forcément très agréable. Donc c'était sur cette base. Et ça, c'était, disons, quand j'avais 15 ans. Vous voyez, c'était pas quelque chose de très, très, très définitif. Mais ensuite, comme j'ai fait philo, je me suis intéressé. J'ai la génération 68, donc j'avais les préoccupations philosophiques, politiques et autres qui faisaient que le droit n'était pas forcément ce vers quoi j'allais naturellement aller. Et en fait, j'ai essayé de faire de la sociologie. J'ai voulu faire de la sociologie, mais quand j'ai vu les conditions d'inscription à Nanterre, c'était d'une complexité, d'une lourdeur, et j'ai pensé que c'était pas pour moi. Ensuite, j'avais une attirance pour la juridiction des enfants, parce que je pense toujours d'ailleurs que le destin des enfants est essentiel. Donc là aussi, je me suis dit, je vais faire de la magistrature. Mais quand j'ai vu ce que c'était compliqué de faire la magistrature et que pour être juge enfant, il fallait attendre d'avoir 40 ans, on n'était même pas sûr parce que c'est pas soi-même qui décidait. Je me suis dit, ça, c'est pas non plus pour moi. Et en fait, j'avais un fil directeur, si vous voulez, qui était, quand j'ai dit ça, c'était que celui, c'est la liberté. C'était pour moi, l'essentiel, c'était d'être libre. À la fois libre de mes choix, mais surtout libre par rapport à l'autorité. J'ai une espèce d'aversion à l'autorité très très grande. Et que ce soit un bien ou un mal, enfin c'est un fait. Et donc je me suis rendu compte que finalement le métier d'avocat, c'était le mieux pour ça, parce qu'on est libre très vite, contrairement à tout autre métier. Dès lors qu'on a la robe, à l'âge de 22 ans, je crois que c'était l'âge où je l'ai eu. On est déjà avocat, on va dans les tribunaux, on plaide, et du fait qu'on ait la robe, on est l'égal des autres. Et ça, c'est quelque chose, il y a peu de métiers qui permettent cela. Et en plus, l'apprentissage de l'avocat, c'est pas comme celui d'un médecin ou de, il y a, on peut, si on a un petit peu de bagou, on va très vite, être capable de faire le boulot. Y compris devant les juridictions, civiles ou pénales.
Et donc vous avez 18-19 ans, votre famille vous a un peu conditionné à faire du droit, à être diplomate ou avocat. Vous avez cette hésitation avec d'autres matières puisque vous avez des attirances philosophiques et intellectuelles vers la sociologie, mais vous vous rebutez un peu parce que des histoires d'inscription, de dossiers d'inscription, de complexité administrative. Et donc là, vous vous inscrivez en droit finalement.
Et je m'inscris en droit, c'était à Nanterre, donc c'était non, non, je me trompe d'ailleurs, compte tenu de mon lieu d'habitation, c'était à Sas. Et donc j'ai été m'inscrire à Sas, oui.
Et c'était plus simple de s'inscrire en droit à Assas qu'en sociologie à Nanterre?
Non, mais je crois que j'avais pas le choix. Non. Peut-être, oui. J'étais peut-être plus dans mon élément. Ouais, c'est peut-être que j'ai dû trouver. Et puis il y avait un côté un peu sérieux dans le droit. Et donc en plus, il y avait des débouchés. C'est vrai que mon père avait fait son droit aussi. Donc j'avais une espèce de sécurité dans le droit que je ne ressentais pas évidemment en allant faire de la sociologie. Donc j'avais gardé un peu un sens du réalisme, un sens des réalités qui faisait que il était quand même plus, à défaut de trop savoir ce que je voulais faire, le droit était plus sûr que la sociologie. Et je pense que je ne me suis pas trompé.
Et la fac de droit vous a plu? Vous vous êtes retrouvé dans ces études?
Oui. À l'époque, c'était des cours, comment on appelle ça, en amphi. Il y avait très très peu de, il y avait quelques travaux qu'on appelle les travaux pratiques. Oui, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Mais...
Des travaux dirigés?
Travaux dirigés, oui, mais il y en avait beaucoup moins et la valeur des travaux dirigés était beaucoup plus faible et donc en fait il fallait assister aux amphis ou d'ailleurs ne pas y assister parce qu'il y avait des polycopiés.
Et vous étiez plutôt du genre à ne pas y assister, n'est-ce pas?
J'étais un peu dilettante, oui, c'est vrai, parce que je faisais de la politique en même temps, je faisais des tas de trucs qui faisaient que l'assiduité n'était pas une condition déterminante, y compris d'ailleurs pour les travaux dirigés, et puis il n'y en avait pas énormément, donc je me suis un peu débrouillé, et l'essentiel c'était de passer les examens. Alors moi j'ai passé les examens en fait en 68, ce qui fait que du même coup, je les ai passés en septembre, en une fois, puisque tout avait été reporté à cause des manifestations. Donc ça avait été un peu spécial quand même. Donc cette première année, je l'ai passée sans beaucoup, beaucoup travailler, à vrai dire.
Et vous dites que vous faisiez plein d'autres choses en parallèle. Vous avez parlé de politique. Est-ce que vous aviez d'autres engagements? À quel point étiez-vous engagé un peu partout?
Bah, je faisais un peu de secours catholique, je faisais des trucs et genre, je sais plus honnêtement, mais j'avais pas le sens, bah, j'allais beaucoup au cinéma, j'avais pas mal d'amis, et à l'époque, c'est vrai que les étudiants avaient une vie assez tranquille, hein, donc l'essentiel, encore une fois, c'était de bacheter les examens avant qu'ils arrivent, et on se prenait à moi, et puis ça allait, hein. Donc, avec un peu de mémoire, on arrive à s'en tirer, quoi.
Et donc là, on a parlé de comment vous avez vécu vos études, mais qu'en est-il du rapport à la matière? Car ce que je comprends, c'est qu'il y avait l'aspect rassurant, ce à quoi vous étiez prédestiné, un côté de réalisme, une projection vers une vie pro qui semblait peut-être plus assurée plutôt qu'en faisant d'autres matières plus littéraires. Mais est-ce que ça vous plaisait quand même?
Vous allez m'obliger à dire que ça m'intéressait.
Alors, je ne veux pas du tout vous obliger à dire quoi que ce soit. Vous pouvez tout à fait me dire que non, mais que comme par ailleurs, j'allais au cinéma et que j'étais investie en politique, je me satisfaisais de mes parents.
Non, alors, pour rien vous cacher du point de vue familial, mon père ayant disparu très tôt, j'avais une très très grande liberté, donc c'est pas ça. En revanche, la matière du droit m'intéressait, oui. Je pense que j'aimais cette logique, cette espèce de logique assez froide finalement, d'appréhension des problèmes. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé et qui est la manière de fonder un raisonnement sur des faits et sur des faits d'un côté et des règles de l'autre me convenait assez bien. Oui.
Et comment est-ce que vous avez évolué par la suite, puisque vous avez dit que vous aviez prêté serment et porté la robe très tôt, à 22 ans?
À l'époque, j'étais quand même devenu un peu. J'avais fait. Alors, attendez, pour être plus précis, à partir de la troisième année, là j'étais à Nanterre, et la troisième année, j'ai décidé de faire l'Institut de droit comparé, qui se trouvait boulevard Saint-Germain. Donc j'avais déjà deux casquettes quelque part, qui fait que j'étais entre les deux. Et puis l'année suivante, j'ai fait l'Institut des affaires qui était au Panthéon et qui valait en qui le droit comparé ne comptait pas en unité de valeur, mais l'Institut des affaires comptait pour quasiment la moitié des. Et donc en fait, je me suis intéressé. Alors là, je peux pas vous dire c'est pourquoi j'ai fait le droit des affaires alors que j'avais des préoccupations plus philosophiques ou sociologiques à l'origine. Je pense que c'est aussi quand même une évolution liée à des choix déterminés. Je pensais qu'effectivement, j'étais plus attiré par la rigueur du monde des affaires que par le privé. Et professionnellement, je me voyais plus m'intéresser à ce monde-là qu'au droit civil, au droit pénal, par exemple. Et mes expériences de droit pénal m'ont montré que j'ai pas eu tort.
Alors, vous allez me raconter tout ça, mais est-ce que, avant de prêter serment, enfin, même si les choses ont beaucoup changé dans la manière de dessiner son parcours, mais est-ce que vous aviez vu un petit peu la réalité du métier avant d'enfiler la robe et de prêter serment?
Pas du tout. Parce qu'à l'époque, on faisait pas de stage. On faisait les stages après, en fait. On avait une période, on était ce qu'on appelle avocat stagiaire. Et donc, on allait à l'école du barreau, mais on était déjà avocat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de. Il fallait vraiment être ne rien faire à l'école du barreau pour ne pas pouvoir être inscrit au tableau après. Vous voyez, il y avait mais on était de plein exercice dès avoir passé prêté serment donc après la quatrième année.
Et comment s'est passée cette période de stage pour vous dans quel type de structure est-ce que vous l'avez fait? Comment est-ce que vous avez trouvé ce stage?
J'ai été dans un cabinet d'affaires, de droit des affaires, qui était d'une petite taille, mais à l'époque, les cabinets étaient, à part les grands comme Gilles Rettmel ou autre, la plupart des cabinets étaient plutôt de petite taille. C'était un cabinet d'une vingtaine d'avocats, à peu près, oui. Et donc, j'ai commencé là, et donc, j'ai commencé à travailler sur des dossiers d'affaires, des contrats, je faisais un peu de fiscalité, après j'étais vraiment dans le panier d'affaires, tout à fait.
Et ça vous plaisait?
Écoutez, c'était un peu dur, oui. C'était un peu dur, oui. J'ai un souvenir, j'ai trouvé ça très très austère.
À quoi est-ce que vous pensez quand vous parlez d'austérité?
Vous savez, je ne sais pas comment ça se passe pour votre génération, mais moi, honnêtement, j'ai eu du mal à passer de la période étudiante un peu tranquille quand même à l'univers du travail, où c'était quand même extrêmement contraignant, à la fois en termes de temps, en termes de... Honnêtement, j'ai eu un peu de mal à m'habituer, quoi. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas le souci du chômage à l'époque, donc on n'avait pas ça, on n'avait pas d'inquiétude qui ferait que par rapport à la concurrence, il faudrait se battre pour. On était moins dans cette. Il y en avait qui étaient déjà dans ce schéma-là, mais c'était pour eux-mêmes. Il n'y avait pas la crainte de l'avenir comme on pourrait peut-être avoir aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que dès lors qu'on était logé, on gagnait très peu à l'époque, hein, très très peu. On était extrêmement mal payé, mais bon an, mal an, on s'en tirait. Et donc, j'ai vécu cette première année. Comme je n'avais pas encore fait mon service militaire, je savais que c'était temporaire. Et donc, j'ai vécu à peu près 2 ans là, dans ce cabinet. Et je savais qu'au bout de 2 ans, de toute façon, je devais partir faire mon service militaire.
Et où avez-vous fait votre service militaire?
J'ai fait mon service militaire à la Marine nationale. Donc, j'ai été marin. Mais j'ai été marin, mais comme j'ai pas mis le pied sur un bateau, j'ai été au CIRPA, qui était Place de la Concorde.
C'est drôle d'être marin, place de la Concorde.
J'habitais rue du Faubourg Saint-Honoré, je prenais le 52 et j'allais 3 fois par semaine, parce que c'était par rotation, faire les revues de presse à la Marine nationale. Voilà. Et donc, je n'ai jamais mis un pied sur un bateau. Sauf pendant les classes où là on est obligé de faire un peu de ramer sur des barcasses, quoi.
Et ça a été une pause dans votre exercice?
Ça a été une pause qui a conditionné pas mal de choses, puisque c'est dans ces moments en particulier quand je faisais mes classes, il fallait qu'on garde les dortoirs contre un ennemi fictif, mais toute la nuit. Donc on passait des nuits entières comme ça à marcher, à arpenter les couloirs. À 3-4 heures du matin, j'ai eu à ce moment-là, paraît peut-être un peu anecdotique, mais j'ai eu une espèce de vision à ce moment-là de paysages exotiques qui correspondaient à l'Inde.
C'était quoi ces images? Racontez-moi, détaillez-moi un peu ces images.
Et ben les images, c'était des images de, je crois que c'était en Inde. Est-ce que c'est Dharamsala ou un endroit où les gens se baignent avec des saris, des couleurs invraisemblables, des fleurs, tout un espèce d'images très bigarrées et très exotiques et d'un monde complètement différent de ce que je connaissais. Alors, est-ce que c'est une réminiscence d'un documentaire que j'avais vu à la salle Pleyel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais ça dans la tête et je m'étais dit à ce moment-là, je vais y aller. Et c'est à partir de cette image-là que j'ai déterminé le choix de partir après mon service militaire.
Et où êtes-vous parti après votre service militaire exactement?
Alors après mon service militaire, mais ça nous éloigne beaucoup de l'activité d'avocat, hein.
Mais plus ou moins, parce que vous exercez à l'étranger et c'est pas pour rien, donc ça nous éloigne plus ou moins de l'activité d'avocat.
Ça en est la cause d'ailleurs. Donc en fait, j'ai convaincu mon frère et sa femme de venir avec moi. Et donc on a acheté une camionnette qu'on a équipée en camping-car. On est allé jusqu'à Calcutta. Et on est passé par cet endroit que j'avais à l'esprit, qui est effectivement, je crois, Dharamsala. Et donc j'ai fait ce voyage. En fait, on est passé par en camionnette. On avait acheté un Ford Transit qui était absolument magnifique, qu'on avait transformé en camping-car, donc c'était quand même extrêmement modeste, hein, et c'était pas le grand confort, mais c'était pas l'objet. Et moi, je reviens à l'origine de tout ça, c'est que comme je suis de la génération de 68 et mon frère qui est un peu plus vieux aussi, on était l'idée du voyage, ça faisait partie de notre culture. Kerouac, toutes ces images qu'on avait à l'esprit, et l'idée qu'il fallait se former en voyageant était quand même très forte. Donc on avait l'idée d'aller rechercher nos vérités par le voyage. Donc c'était ça qui nous avait motivés.
Ouais, ma tante, qui est de la même génération que vous, est allée jusqu'au fin fond de l'Irak ou de l'Afghanistan, comme ça, en voiture, avec une deux chevaux depuis la France. Et c'est vrai que pour ma génération, ça semble complètement improbable, c'est complètement un autre monde.
Il y avait une forme d'insouciance quand même, hein, qui était liée au fait qu'on n'avait vraiment pas la crainte de l'avenir. Donc on pouvait se payer, c'était un luxe qu'on pouvait se payer parce qu'on savait qu'on retomberait sur nos pattes d'une façon ou d'une autre. Et donc, pour revenir au sujet, donc on a même traversé l'Afghanistan, on a traversé, vous voyez, donc on a eu des moments où on ne pourrait plus aller aujourd'hui aussi tranquillement. Et à Calcutta, j'ai laissé mon frère et ma belle-sœur, j'ai laissé le camion et je suis parti avec mon sac à dos pour aller d'abord en Thaïlande, ensuite en Birmanie, en Laos, Hong Kong. Et puis à Hong Kong, j'ai rencontré un ami qui m'a dit: je vais à Tokyo. Ben, je lui ai dit: bah, écoute, je vais venir avec toi. Et je suis arrivé à Tokyo. Voilà, donc vous voyez, c'était là, là il n'y a pas de prédestination du tout. C'était vraiment complètement le hasard de la trajectoire complet. Et c'est vrai qu'il y a un hasard qui est pas tout à fait, c'était quand même, c'était le bout du chemin, quoi. Ou bien après on fait le tour du monde, ou bien on s'arrête à Tokyo, parce qu'après il n'y a plus rien, quoi. J'avais pas du tout l'intention d'aller en Amérique poursuivre ce voyage. C'était plutôt l'initiation se faisait plutôt vers l'Asie, avec toutes ces connotations bouddhistes, zen et autres qui étaient déjà présentes à l'esprit.
Oui, là, on est vraiment sur le hasard de la trajectoire. Vous étiez un hippie des années 70?
Non, bah, physiquement oui, je l'étais devenu parce que j'avais effectivement tous les atouts, mais mentalement non, j'étais resté assez conformiste quand même quand j'y pense. Mais bon, pas en apparence et puis pas en expérience de ce que je vivais, bien sûr, mais dans mon esprit, j'étais pas, j'ai pas mal tourné, quoi.
Et dans votre esprit, vous pensiez reprendre une vie d'avocat, un exercice de juriste, professionnellement parlant? Est-ce que vous envisagiez des choses pendant ce voyage?
Oui, quand même. On avait non, l'intention de départ, c'était d'aller en Australie parce qu'on voulait tenter l'aventure en Australie. Et là, c'était effectivement presque sans retour. Et donc, l'idée de l'exercer n'était plus. C'était un peu irréaliste, mais bon, c'était quand même l'idée qu'on avait. Et comme c'était en 74, c'est-à-dire le choc pétrolier, l'Australie a fermé les frontières à ce moment-là. Et donc, elle n'acceptait plus l'immigration. Donc, c'était très clair que ce projet ne pouvait pas se poursuivre. Mais en même temps, au cours de ce voyage, j'avais compris que ma vie, elle n'était pas sur la route. Elle était à Paris. Elle était à Paris, d'ailleurs. C'était mon idée. Avant que je découvre Tokyo, mon idée, c'était de revenir et de reprendre mon métier, bien sûr. Oui. Alors, peut-être sous d'autres formes, mais j'avais pas l'intention de. Ça m'a resitué dans ma trajectoire d'origine.
Et vous avez dit avant que vous ne découvriez Tokyo.
Oui, parce que là, donc, je suis arrivé à Tokyo, et là, j'ai trouvé un endroit quand même assez étonnant pour un Français. Et donc, j'ai rencontré des gens, je me suis fait des amis, et j'ai pas travaillé d'ailleurs très peu. Moi, je donnais des cours de français, mais c'était très très peu. Donc, je reconnais que mes économies commençaient à s'amenuiser, donc il fallait que je gagne un peu ma vie, mais c'était pas du tout dans une perspective professionnelle, c'était encore assez dilettante, pour rien vous cacher. Mais j'ai connu ce pays, et puis j'ai trouvé ce pays intéressant. Je suis pas tombé amoureux du pays, mais j'ai trouvé ce pays intéressant, mais au bout d'un certain temps, j'ai compris qu'il fallait quand même que je rentre, et donc je suis rentré, et c'est plutôt quand je suis rentré que j'ai réalisé qu'il fallait que je reparte.
Pourquoi?
Parce que je ne sais pas, j'étais parti 16 mois quand même. Hein. Donc quand je suis revenu, j'étais quand même sérieusement décalé. Mes copains étaient tous dans le truc, je les voyais au palais avec leurs serviettes pleines de dossiers, l'air complètement. Là, quel boulot, c'est terrible. Enfin, on sentait quand même que la vie, c'était dur, quoi. Et puis je les trouvais déjà un peu vieux, quoi. Déjà, les gars, ils avaient 25, 26 ans ou 27, déjà, ils se comportaient comme des vieux messieurs, quoi. Et ça m'a pas, moi j'avais du mal, quoi. Ayant vécu l'expérience que j'avais eue, j'ai pas pu me remettre dans le bain, quoi. Donc j'ai travaillé chez un ami, comme avocat, j'ai fait le travail. Et puis surtout, j'ai cherché le moyen de revenir au Japon pour faire du droit au Japon. Et c'était pas très facile parce que.
Par rapport à vos amis, à votre...
Ben, j'avais trouvé des amis, donc il y en a un consultant qui m'a engagé.
Un consultant en quoi?
Un consultant business, parce qu'on pourrait rien vous cacher à l'époque, les avocats étrangers n'avaient pas le droit d'exercer. Alors j'étais un peu gonflé parce que je suis quand même parti pour ça. Je dis que j'aimais la liberté et j'aimais pas l'autorité. Donc toutes les contraintes ne me troublaient pas trop, mais en fait c'était quand même un peu compliqué. Donc j'ai été consultant chez lui pendant un an. Je me suis aperçu que je pourrais pas faire de droit de manière efficace et financièrement acceptable.
Et c'est quand même ce que vous aviez envie de faire du droit plutôt que du business.
Ah oui. J'avais même, oui, j'étais venu avec des bouquins, j'avais fait tout, j'étais équipé pour travailler le droit. Alors le problème, on y reviendra, parce que c'est là où il y a un vrai problème, qui est moins drôle, mais à l'époque, je pensais faire du droit pour aider les Français à venir travailler au Japon. Vous voyez déjà. Et donc, ça supposait de faire du droit japonais. Ce qui est avéré impossible dans le cadre de ces consultants. Mais c'est vrai que le droit à l'époque au Japon était beaucoup moins élaboré d'abord qu'il ne l'était en France et qu'il ne l'est devenu après. Donc, les choses étaient donc, relativement simples au niveau de ce que pouvait demander des Français venant au Japon. Et donc, je me suis beaucoup intéressé, je travaillais pas mal aussi sur la propriété intellectuelle parce que le Japon à l'époque avait posé des tas de problèmes. Mais toujours pour simplifier, au bout d'un an, chez ce consultant, je me suis dit, je rentre parce que c'est pas possible. Je rentre en France. Et à ce moment-là, le poste d'expansion économique, qui était donc l'émanation de l'ambassade pour tous les aspects commerciaux et économiques, m'a offert un poste d'attaché juridique. Et donc, attaché juridique, donc avec immunité diplomatique, avec une rémunération tout à fait acceptable, un statut, j'avais tout ce qu'il faut pour pouvoir exercer au Japon dans ce qui me plaisait, c'est-à-dire toujours d'assister les Français dans leurs problématiques au Japon, ce qui a été toujours le moteur de mon intérêt à être dans ce pays. C'était pour l'ambassade de France, mais qui à l'époque ça s'appelait les postes d'expansion économique, qui était indépendant de l'ambassade, mais on avait le passeport diplomatique, si vous voulez. Donc c'était un statut qui était assez confortable, assez confortable. J'ai fait ça pendant 5 ans, et là mon activité, elle consistait encore une fois, vous voyez, les Français qui avaient des problèmes de contrat, des problèmes d'installation, des problèmes de beaucoup de problèmes de propriété intellectuelle, parce qu'à l'époque, le Japon était, on l'appelait le Japon, le paradis de la contrefaçon. On n'imagine pas ça aujourd'hui, mais il y avait de la contrefaçon partout. Des produits de mode qui commençaient à se développer dans le pays. Donc, ça a été une grosse partie de mon activité et de mon savoir-faire pendant les premières années. Et donc, au bout de 5 ans, je me suis dit, n'étant pas diplomate de carrière, n'ayant pas fait l'ENA, et donc, avec des débouchés quasiment nuls dans ce type de métier, sauf à passer des concours, mais là, c'était pas du tout dans mon état d'esprit. J'ai toujours pensé que la nécessité de gagner son propre argent était le moteur le plus efficace pour se bouger. Donc j'ai pensé que c'était ça, vers ça qu'il fallait que je retourne. Et à ce moment-là, avec un de mes amis, on a créé une boîte de conseil. Et lui est expert comptable, moi juriste, dont l'idée était toujours la même chose, hein, d'assister les entreprises françaises qui s'installaient au Japon, et même ceux qui y étaient déjà présents. Mais là encore, le barreau japonais étant de plus en plus restrictif, ça devenait de plus en plus difficile.
Il y a peu un avocat qui a exercé comme conseil juridique au Chili et maintenant en Colombie. Donc c'est Benoît Renard. Et typiquement, il m'a expliqué qu'en fait, la réglementation d'un point de vue déontologique et réglementaire au Chili et maintenant en Colombie fait que la protection du périmètre d'activité d'avocat se restreint dans ces pays-là aux activités judiciaires. Ce qui fait que pour toutes les activités de conseil, et notamment le conseil des entreprises et des particuliers, il n'a pas besoin d'être avocat. Ce qui explique qu'il n'avait pas de contraintes par rapport au barreau pour développer son activité. Donc, j'allais vous demander ce qu'il en est au Japon et surtout ce qu'il en était au Japon à l'époque.
Ah ben, là, c'est exactement le contraire du Chili, c'est-à-dire comme dans beaucoup de pays, et c'est important par rapport à ceux qui veulent aller à l'étranger, dans les grands pays, ou bien on est avocat enregistré au barreau local, comme aux États-Unis, ou comme en Angleterre, ou comme en Allemagne, quand on peut. Sauf qu'en Europe, maintenant, il y a des règles qui font qu'on peut s'expatrier plus facilement, mais dans les pays comme le Japon, Alors, tu te dis, c'est facile parce que passer le bar de New York, c'est assez facile. D'abord, il n'y a pas de barrière de langue. Et puis, le critère aux États-Unis, c'est pas de passer l'examen, c'est de réussir par ses propres talents. Au Japon, l'examen est un espèce de passeport pour l'avenir qui est hyper important. Et d'abord, parce que c'était extrêmement sélectif. Donc, les avocats japonais ont protégé leur marché de manière extrêmement forte. Et c'est ce qui fait que sous la pression des Américains en particulier, le barreau japonais, en 88, a autorisé les avocats étrangers à ouvrir des bureaux à Tokyo, mais ces bureaux également uniquement pour faire du droit du pays d'origine, donc pour moi, droit français. Donc, ça ne résolvait pas mon problème. Mais ça permettait de s'installer. Et c'est à ce moment-là que Gide Loretoine m'a approché. Il souhaitait, et c'était à l'époque où Gide se développait beaucoup en Asie, il avait des bureaux en Chine, il avait des bureaux, au Vietnam, Singapour. Donc, ils cherchaient à se développer également sur le Japon. Ils avaient su que le barreau s'ouvrait. Et comme j'étais quasiment le seul, ils m'ont demandé d'ouvrir leur bureau.
Et comment vous ont-ils connu?
Ils m'ont connu parce que j'avais dû être en liaison avec un garçon qui était chez eux. Et donc, quand ils ont su que le barreau s'ouvrait, ils sont automatiquement tombés sur moi. Et de toute façon, des avocats français qui étaient au Japon, on était trois. Donc, il y en a un qui était chez Clifford Chance, là aussi il était chez Baker McKenzie, et moi j'étais indépendant. Donc, j'étais le mieux placé pour répondre à leurs besoins. Et donc, j'ai ouvert leur bureau et je suis resté 10 ans l'associé résident de Gide à Tokyo.
Et donc, c'est comme ça que vous êtes devenu associé chez Gide. En France, ça vous aurait demandé un autre parcours?
Non, attendez, j'étais associé résident, c'est-à-dire, non, j'étais pas associé de France. C'est ce qu'on appelle associé résident, c'est-à-dire que j'avais un statut qui était, j'avais le titre d'associé. Pour deux choses, c'est pas vis-à-vis des clients, c'était important que j'ai ce titre-là. Ça me donnait accès à la vie associative, c'est-à-dire que je participais au réunion d'associés, donc j'étais dans le sein des saints quelque part, mais je n'étais pas associé sur un plan financier. Non.
Ah, financier. Et du coup, en quoi est-ce que votre travail a changé à partir de ce moment-là? Parce que vous aviez une activité plutôt près de particuliers?
Non, j'avais déjà une activité. À partir de 85, mon objectif, ça avait déjà été les entreprises. Donc, j'avais déjà, mes clients étaient d'abord déjà des sociétés, beaucoup dans la propriété intellectuelle. Et j'avais quand même un portefeuille de clients qui m'ont plus ou moins racheté, donc c'était déjà assez consistant, mais pas grand groupe, c'était plutôt petite et grosse PME. Et avec Gide, eux, ils sont arrivés avec l'artillerie lourde, c'est-à-dire les grands groupes. Et donc, ça a permis d'étoffer l'activité de manière considérable, mais aggraver la situation que j'évoquais tout à l'heure, qui était de ne pas être de plein exercice pour ces grands groupes-là, devenait extrêmement problématique.
Surtout que ça devait attirer peut-être un petit peu plus l'attention des avocats locaux.
Oui, il y avait ce risque-là. Et puis surtout, oui, il y avait surtout le fait de ne pas pouvoir. Il y a un moment où faire une opinion juridique, ça devient compliqué quand on n'a pas le droit, quoi. Et c'était les grands groupes avaient des exigences en termes de validité qui faisaient qu'on ne pouvait pas. Donc ça m'a conduit à m'associer avec un cabinet japonais. Et j'ai créé donc avec un cabinet japonais une espèce de joint venture qui était une forme autorisée par le barreau. Et on a été les premiers à la faire et qui m'a permis de m'installer chez eux dans leurs locaux et de pouvoir faire valider tous mes travaux de droit japonais par les avocats de ce cabinet.
Et alors j'ai une question, c'est un peu un pas de côté, mais vous avez appris le japonais sur le tas?
J'ai appris le japonais, oui, sur le tas, on peut dire ça, oui. Oui, c'est-à-dire, j'ai appris le japonais entre 80, j'ai fait un an de langzhou le soir, c'est-à-dire, honnêtement, très, très peu efficace. Et j'ai fait ensuite, j'ai appris, j'allais dans des cours, pendant que j'étais à l'ambassade en particulier, j'avais peut-être un peu plus de temps. Donc là, j'ai appris le japonais, mais sur place. Donc, j'ai pas, comparé à ceux qui sont les vrais japanisants, c'est-à-dire que ceux qui ont fait Langzhou, les 4 ans de Langzhou, qui ont fait des formations au Japon, dans les universités japonaises comme certains, et qui ont donc un très bon japonais écrit et parlé, moi j'ai pas ça. Et malheureusement, je ne l'aurai jamais. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut, à moins d'être un fou de travail, vous avez compris que c'était pas vraiment mon truc. Et passer des nuits entières, je peux pas faire ça, quoi. Donc, mais j'en connais peu qui l'ont fait, mais c'est toujours au détriment de quelque chose, parce que c'est du temps. Et donc, ce temps-là, on le passe pas à autre chose. Donc, du même coup, j'ai toujours la dégnote d'un patron d'un grand groupe français au Japon qui, au bout de 2 ans, maîtrisait, avait appris tous les kanji. Et il en était très fier. Et, quand le grand patron du groupe est venu, il l'a viré. En disant, mon ami, vous avez appris le japonais, mais c'est pas ce qu'on vous a demandé. Et en fait, il avait pas fait le boulot, quoi. Parce qu'on peut pas faire tout. On peut pas à la fois, se concentrer sur, un apprentissage vraiment dur, parce que le japonais, c'est une langue vraiment difficile. Donc, c'est une langue, c'est, au moins 2 fois, si c'est pas 3 fois plus difficile que n'importe quelle autre langue en termes d'apprentissage. Donc, donc c'est une question de temps.
Et ça m'amène à vous demander si est-ce que cet usage de la langue japonaise que vous avez appris sont cherchés à perfectionner, sachant que le droit, surtout local, quand bien même vous en aviez pas l'autorisation au début, est-ce que ça a été une difficulté supplémentaire? Comment est-ce que vous avez appréhendé le fait de faire du droit dans une langue étrangère que vous ne maîtrisez pas?
Non, mais ça, non, pas vraiment. Enfin, je n'ai pas réfléchi, donc vous me voyez maintenant, mais je pense que, en fait, s'il s'agissait d'étudier le droit dans le texte, si vous voulez, je savais que c'était quelque chose qui n'était pas possible. Dès lors qu'on arrivait à ce stade-là, j'avais besoin de m'appuyer sur mes confrères japonais. Et donc mon travail a été, est devenu, beaucoup plus un travail de définition de stratégie, conduite de, je sais pas comment expliquer, les Japonais ont une manière d'apprendre le droit qui est assez différente de la nôtre. Et donc, c'était très important pour les Français d'avoir quelqu'un qui est capable de décrypter, à la fois ce que veulent dire les Japonais et ce que eux veulent exprimer. Et mon travail, ça a surtout aidé ça. Alors, ça suppose que j'ai une connaissance du droit japonais, par le fait que de toute façon, comme on est en droit international, on est en communication internationale, tout se fait en anglais ou en français. Donc en fait, tous les éléments, tout ce qui intéresse mon travail est de toute façon en anglais.
Et donc vous avez parlé de cette joint venture entre Gide et un cabinet local que vous avez mené à bien. À ce moment-là, vous étiez encore chez Gide ou vous étiez dans un autre cabinet, dans l'autre cabinet?
Non, j'étais chez Gide pendant 10 ans. On a fait une joint venture entre Gide et ce cabinet, qui a duré, je crois, 7 ans. J'ai dû faire le choix de rester dans ce cabinet. Parce que ce cabinet est dirigé par un certain monsieur Tanaka que je connaissais déjà depuis 1979. Vous voyez, donc c'était une vieille connaissance. Et lui-même avait créé un cabinet qui est devenu le 5e cabinet japonais. Donc il était en pleine croissance. Et il avait aussi besoin de ses apports étrangers.
Oui, et donc là, on est sur le hasard des rencontres qui se développent vers un cabinet florissant. Et...
Absolument. Et le fameux Tanaka, je l'ai rencontré chez le consultant chez qui j'ai travaillé au début. Donc, tout ça, c'est quand même un peu lié.
Et donc, est-ce qu'en rejoignant de plus grosses structures, ça vous a allégé en termes de gestion?
Alors, à l'époque de Gide, oui, j'étais allégé parce qu'en fait, ils avaient quand même... une volonté de financer qui était très, je les remercie parce que ça a été quand même des partenaires extrêmement à la fois loyaux, efficaces et ça a été très bien. Ensuite, je me suis retrouvé un peu tout seul et donc je ne sais plus quelle était votre question là.
Si en évoluant et en rejoignant de plus grosses structures, vous vous étiez délesté de cette partie de gestion qui n'était pas votre tasse de thé.
Oui, alors quand, oui, c'est pour ça que je vais répondre à l'époque de Gide, oui, j'avais cette sécurité là. Tout en ayant la responsabilité de la gestion quand même, puisque vis-à-vis du cabinet en France, il fallait que je rende des comptes, hein, donc c'était pas forcément très simple. Ensuite, quand j'étais tout seul, c'était ma responsabilité à 100%. Quand j'ai créé CVML aussi, et là, CVML, c'était un cabinet qui me soutenait, mais en réalité, c'était quand même sur mes fonds propres, donc c'était pas évident. Alors là où j'ai commencé, pour rejoindre la question, à avoir une vie un peu plus tranquille, c'est quand je suis devenu associé du cabinet japonais dans lequel je suis aujourd'hui. Et ce même cabinet est celui avec qui j'étais en joint venture depuis Gilles, vous voyez, donc c'est le même qui m'a récupéré après l'expérience indépendante que j'ai eue avec, dans le cadre du cabinet CVML. Et donc là, ça fait depuis 2013, et je dois dire que je suis effectivement plus confortable. Oui.
Vous avez trouvé votre équilibre?
Oui, je continue quand même à avoir la responsabilité de la gestion, parce qu'il faut quand même il faut facturer, il faut faire tout ça, ça reste ma responsabilité, mais c'est quand même, sinon il y a un backup très important. Donc, j'ai trouvé effectivement ce qu'on peut appeler une forme d'équilibre. On peut dire ça. Oui.
Et par rapport à la culture japonaise, alors, moi, ce que je comprends, enfin, c'est plein de préjugés et d'a priori parce que je ne connais pas le Japon, mais j'ai l'impression que c'est une culture de travail très particulière avec un temps dédié au travail très important. Vous qui vous présentez plutôt comme quelqu'un qui aime bien ne pas faire que travailler, comment a été cette intégration dans cette culture pour vous?
C'est compliqué. Je pourrais essayer de simplifier. Hein. Les Français sont très bons pour passer du général au particulier. Et les Japonais sont très bons pour rester dans le particulier et ont du mal à aller au général. Donc ça veut dire ils n'ont pas appris comme nous l'esprit de synthèse, parce que nous ça fait partie de notre éducation. Et l'idée d'aller vers le point essentiel et d'oublier le reste autour est quand même une qualité qu'ont les Français. Oui, je reconnais pas mal de qualités aux Français quand même. Et que les Japonais n'ont pas tellement, donc ils se noient dans le détail, dans des conditions qui sont assez éprouvantes, quoi. Alors effectivement, ça revient à votre question, c'est qu'ils ont le temps, ils ont un rapport au temps qui est pas le même. Le temps, il y a pas le temps, la notion de temps n'existe pas. Donc il y a un travail à faire, on le fait. Tandis que nous Français, vous l'avez compris, mais c'est on a du temps, mais on doit garder du temps pour autre chose. Donc notre temps est précieux. Donc là, ça crée un décalage de comportement. Alors moi, je l'ai vécu pas trop mal, parce que je suis quand même, bien que je vous ai donné l'impression d'être un petit détente, je suis quand même assez travailleur. Et oui, je fais ce qu'il faut quand il faut. Donc, vis-à-vis des Japonais, je ne pense pas avoir donné le sentiment que je faisais autre chose. Et puis, alors, il y a cet aspect-là qui me dédouane un peu. Mais aussi, je pense que le fait que je sois un étranger fait qu'ils n'ont pas la même exigence à mon égard qu'ils en auraient vis-à-vis des collaborateurs japonais ou des associés japonais.
On vous pardonne de ne pas être aussi pointilleux et dans le détail.
C'est pas du pardon, c'est ils comprennent pas. Donc ils disent toujours oui, le français vous êtes un peu compliqué. Donc c'est on est un peu à part. Donc alors est-ce que j'en tire un peu? Oui, je tire un peu. Mais l'essentiel quand même, là, c'est quand même les chiffres sont là. Donc si vous voulez, il faut faire le chiffre. Donc comme vous avez le sentiment que c'est un peu plus confortable, mais c'est quand même lié à une certaine performance. Et la performance, elle se traduit par les chiffres. Donc, si les chiffres baissent, ben, la sanction, elle est là. Donc, c'est pas. Mais c'est une sanction, je trouve assez. Les Japonais, pour ça, sont assez clairs, quoi. Il n'y a pas de discussion. Vous ramenez temps et on vous donne temps. Et c'est toujours. Il y a les constantes. Et je trouve que c'est quand même assez sain comme manière de voir les choses. Mais ça, c'est pas de la culture. Enfin, c'est un peu lié. Est-ce que c'est la culture? Je sais pas. Mais dans les relations de travail, là, honnêtement, c'est quand même généralement, parce qu'il faut pas. Généralement, les Japonais, comme je vous l'ai dit, ils sont soucieux du détail. Ils sont pas comme to the point. Et les clients français, de temps en temps, disent mais attendez, on s'en fout de savoir si on peut pas faire. Ce qu'on veut savoir, c'est comment on peut faire. Et les Japonais ont en général assez peu ce sens économique, ou j'allais dire même commercial, de la démarche vis-à-vis du client. On leur pose une question, on dit ben, on peut pas. On dit mais c'est pas on peut pas, mais on s'en fout de savoir ça. On veut savoir c'est qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Quel est le risque par exemple? J'ai dit à mes confrères japonais, mais vous me dites qu'on peut pas faire ça, mais quel est le risque? Parce que le client il va se positionner à la fois par rapport à ce qu'il peut faire ou pas faire, mais également par rapport au risque. C'est déjà presque une question presque interdite de penser comme ça. Donc ça rend parfois. Alors, mais d'un côté, vous avez parfois des Japonais qui sont extrêmement très proches de la pensée française en termes d'agressivité. Mais il y en a très peu. Hein. C'est un peu les francs-tireurs. Hein. En plus, il faut que si vous voulez trouver un qui parle bien anglais, qui sache avoir ce type de comportement avec les clients, il y en a pas beaucoup. Hein.
Bien sûr. Et vous en avez tiré un parti peut-être de ça, dans l'accompagnement de vos clients au Japon?
Ah bah oui, vous avez complètement deviné. C'est-à-dire que parfois, je donne le dossier à un de mes associés ou à un de mes collaborateurs japonais. 2 jours à 3 jours après, j'ai le client qui m'appelle, qui me dit « Est-ce que tu vas m'expliquer ?» Et puis il faut peut-être, il va me demander à moi, parce qu'il dit « Non, ça va pas comme ça. Il faut, on veut ton avis à toi. » Donc effectivement, ça va. Ils vont me demander d'intervenir pour aller plus dans le sens qui est c'est de leur intention. Et moi, effectivement, là, j'interviens vis-à-vis de mes confrères pour leur dire, ben, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et donc, ça, c'est un vrai travail. Et je dois dire, c'est un travail intéressant parce que faut le faire, évidemment, avec diplomatie. Mais c'est intéressant qu'on arrive à des résultats, surtout. Et on y arrive. Parce que les avocats japonais, les Japonais sont des gens extrêmement bien formé et donc intelligent. Donc c'est plus une question de structuration mentale que d'intelligence propre.
C'est intéressant car vous dites que vous êtes parti de France. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous avez revu tous vos amis, puis vous vous êtes senti un peu décalé. Vous les trouviez déjà un peu vieux à être rentré dans la vie active et vous partez pour le Japon. J'ai l'impression que vous avez eu une vie professionnelle pleine de défis du fait d'avoir évolué un peu en marge par rapport à la réglementation et à la protection de l'exercice d'avocat, le développement d'un business très rapide, le parcours d'association. Est-ce que pour vous, c'était plus aventurier de le faire à l'étranger plutôt qu'en France? Est-ce que vous aviez une attraction particulière pour la culture japonaise qui fait que vous aviez envie de vous implanter plus dans ce pays? Parce que vous y êtes allé faire des choses sérieuses finalement, vous étiez pas en vacances donc
Écoutez, je pense que s'il faut que je sois très très franc avec vous, le problème c'est que je ne sais pas si ça va avec vous, si j'ai bien compris. En fait, je pense que j'aurais eu plus de mal en France par rapport à j'ai trouvé que le fait d'être hors norme au Japon, et on était très peu, d'être un espèce d'oiseau rare au Japon, dans un milieu qui culturellement me convenait, non pas parce que je suis amoureux de la culture japonaise, mais je suis capable de m'y mouvoir assez bien. C'est pas le cas de tout le monde, parce que c'est pas toujours évident. Je suis pas très dans l'émotion, je suis pas très dans le. Donc ça suppose pas mal de distanciation, de sérénité, enfin des qualités et de coup du compromis aussi qui est quand même très présent au Japon, qui fait que je suis pas une grande gueule, voyez, donc ça fait que c'est quand même plus facile. Mais j'ai des amis qui sont pour simplifier un peu des grandes gueules, ils ont du mal au Japon parce que ça passe pas quoi, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc mon caractère assez souple et je sais pas comment je peux définir mon propre caractère, mais enfin disons qu'au moins il est ça, fait que j'étais bien adapté au mode japonais et ça j'avais donc des facilités pour ça naturelles, bien qu'elles étaient acquises quelque part, mais elles étaient devenues en tout cas naturelles pour moi, alors que j'ai en France face à cette espèce de concurrence et des concours d'ego à la française, j'étais pas très bon pour ça moi. Alors je pense que là je touche peut-être à un sujet qui est important, c'est que le Japon est un pays sans ego. Enfin, tout est relatif. Hein. Où la nécessité de prouver son existence par son comportement ou par ce qu'on dit n'existe pas. Et donc en fait, il y a une espèce de neutralité dans la relation avec les gens qui me convient parfaitement bien. Et ça, c'est un élément, je crois, qui a beaucoup joué dans le fait que j'ai pu rester aussi longtemps au Japon et m'y épanouir quelque part. Alors, c'est vrai que quand je reviens en France, alors maintenant j'ai acquis un peu de bouteille et puis j'ai ce vernis japonais qui me donne un peu plus de poids, quoi. Mais quand je vois en France comment mes amis se comportent pour beaucoup, j'ai un peu de mal, quoi. Parce que c'est vraiment, en France, on a un besoin, une nécessité de s'affirmer, de dire qu'on est là, qu'on existe, qui est extrêmement violente comparée à ce qu'on connaît au Japon.
Comment est-ce qu'on existe au Japon ?
Ben, les gens n'ont pas de préoccupation de... C'est ça qui me fascinait d'ailleurs, parce que les Japonais ne sont pas brillants. En France, il faut être brillant. On va dire, ah ben, Stipe, il est brillant. Ça va être un truc qui va être un qualificatif au Japon. On ne va jamais vous dire que ce type est brillant. Jamais. C'est pas un des éléments. Les gens font leur. Alors, on va dire que certains, il y en a, c'est le cas d'ailleurs ce fameux Tanaka, qui ont du charisme. Mais c'est pas, ça ne va pas dire qu'il ne va pas s'afficher comme tel. C'est un charisme qui va apparaître naturellement. Mais donc comment dire, à partir de ce moment-là, quand on discute avec les gens, on n'a pas en face de soi une personne. On a quelqu'un qui va développer un raisonnement, mais qui ne va pas s'impliquer personnellement de manière parfois gênante. Et donc avec une émotion moins grande, et ce qui fait que les discussions sont quelquefois plus faciles, de ce point de vue-là en tout cas. Et quand je vois arriver des Français qui parfois me disent on va taper sur la table, j'en dis bah oui, allez-y, tapez sur la table, ça ne sert à rien. Je dis oui, mais mon cher maître, vous êtes mou. Je dis oui, mais si vous faites ça, ça va être pire que tout, quoi. Donc c'est une espèce de conception de la relation qui est vraiment très très différente, quoi. Et je dois dire que je trouve que la conception japonaise de ce point de vue-là est plus civilisée.
Ce que je comprends, c'est que vous vous êtes bien développé au Japon, car la manière d'exister là-bas vous correspond plus. Le fait qu'il y ait moins de ces jeux d'ego pour exister, du besoin de sortir du lot, vous vous y retrouviez plus. Tout en étant un peu exceptionnel du simple fait d'être français là-bas. Enfin, vous avez brillé, mais d'une manière... Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai du mal à le mettre en mots, mais vous avez réussi à être exceptionnel dans quelque chose de très discret. Quelque chose qui vous correspondait plus, finalement.
Je vois très bien ce que vous voulez dire. Je vois très bien où vous voulez en venir. Je pense que c'est tout à fait vrai. Donc, vous voyez, ça prouve que j'ai parlé franchement parce que vous m'avez deviné. Donc...
Non, mais je trouve ça très intéressant, tout ce que vous dites. Je trouve ça passionnant, toute cette réflexion, ce parallèle entre les différents facteurs de réussite dans un pays et dans l'autre et le prix qu'on paye.
Non, c'est vrai, mais ça va... Bon, alors, c'est vrai, c'est un peu plus loin, ça va un peu plus loin que ça, quand même, parce que je pense qu'il y a une certaine vérité dans cela. Mais que j'ai du mal à... Ce qui m'a fasciné, ce qui me fascine encore dans ce pays, c'est que justement, comme vous avez, quand vous voyez les Japonais, vous dites, mais comment ils ont fait pour réussir? Et vous, dans leur manière d'être, vous dites, c'est pas possible. Quand je suis arrivé au Japon, première fois 76, c'était déjà la deuxième puissance du monde. Avec 120 millions d'habitants, pas de ressources, rien. Rien. Uniquement leur génie, leur aptitude au travail. Et donc, je trouvais ça absolument étonnant. Nous, on était en France, très fiers de nous, assez arrogants. On disait, on est les meilleurs du monde, on est le centre de l'univers. Mais à côté de ça, ben, on n'avait pas les mêmes performances. Et dire, je peux vous dire aujourd'hui que quand on fait la comparaison, mon jugement d'il y a 40 ans ou 30 ans est le même. Et donc, c'était intellectuellement extrêmement intéressant de voir Comment est-ce possible, toutes les certitudes qui étaient celles qu'on m'avait enseignées sur la manière de réussir, à la fois personnellement et sur le plan collectif, étaient complètement bouleversées par le fait que les Japonais, c'est exactement l'inverse, quoi. Je pense que c'est le sens du collectif qui les rend forts. Et on est quand même dans un monde où aujourd'hui, le génie personnel, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas une organisation avec un sens du collectif très développé, ça ne marche pas. Et si vous regardez les pays qui fonctionnent bien aujourd'hui, vous prenez l'Allemagne. L'Allemagne a un sens du collectif, on le voit aujourd'hui de manière assez d'ailleurs dramatique. Ils fonctionnent bien, les Coréens, les Japonais, les Chinois, les Taïwanais. C'est tous des sociétés qui ont un sens, le Vietnam, c'est des gens qui ont un sens du collectif qui est extrêmement développé, et où donc le moi s'efface dans l'importance de, ou comment dire, c'est-à-dire c'est très lié aussi aux philosophies confucianistes ou taoïstes, mais surtout confucianistes, qui fait qu'en fait on est un, on n'existe que dans un ensemble. Cet ensemble étant la nature, cet ensemble étant le monde environnement dans lequel on est, et la société dans laquelle on est, on n'existe pas autrement que dans qu'un élément de cet ensemble. Et donc on n'est pas un individu, on n'est pas l'humanisme qu'on a connu en Europe, n'existe pas au Japon. Prenez l'exemple, par exemple, c'est un mauvais exemple, mais il reste quand même assez bon, celui du traçage que l'on connaît en... On a une problématique en France que moi je trouve absolument invraisemblable. Penser que la liberté individuelle puisse être un obstacle à la possibilité de mettre en place un système qui fonctionne me choque. Alors les Japonais, ils peuvent pas le faire non plus. Et d'ailleurs, ils invoquent la même raison, mais c'est pas une raison humaniste. C'est une raison qui est historique. C'est-à-dire que pendant la guerre, ils ont eu une politique d'espionnage des individus extrêmement forte. Et c'était donc sans les moyens de l'intelligence artificielle, ils avaient des systèmes de traçage qui étaient extrêmement complets. Et ce souvenir a été tel qu'ils ont mis dans la Constitution l'interdiction de toute atteinte à la vie privée de cet ordre. Donc c'est plus par rapport à ça qu'ils se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité de mettre en place un système de traçage comme ça a été fait en Corée, et au Vietnam et à Taïwan avec beaucoup d'efficacité. Donc tout ça pour dire que, et revenir au sujet initial, c'est que je pense que c'est une leçon pour nous. Ce sont le fait d'être un dans un ensemble, y compris dans la nature, est un élément essentiel de la réussite. Alors on dit toujours que vous mettez un Français tout seul, il vaut trois Japonais, mais deux Français ensemble, ils valent plus qu'un Japonais, et alors 10 Français ensemble, c'est plus rien du tout, quoi. Les Français n'ont absolument pas la même capacité qu'ont les Japonais à travailler ensemble. Et aujourd'hui, dans la plupart des industries nouvelles, c'est quand même le collectif qui prédomine. Alors nous, ce qui nous sauve, mais c'est pas le sujet, mais ce qui nous sauve, c'est qu'on a le contrepoids de ça, c'est qu'eux, ils ont moins de génie et créatif que nous. Alors, le prix à payer du génie créatif, c'est celui qu'on paye nous, qu'eux ne payent pas. Alors, ils l'ont acheté. J'avais lu un article très intéressant, mais il y a assez longtemps, d'un scientifique japonais qui disait, en fait, pour avoir le niveau de créativité qui existe en Occident, ça suppose un certain type de société dont nous ne voulons pas, parce que c'est une société qui implique un certain nombre de désordres. Et donc, on va les acheter. Voilà. Plutôt que de les créer les conditions pour les créer nous-mêmes, on va les acheter. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté des techniques à tour de bras en Occident. Quand ils ne les ont pas achetées, d'ailleurs, ils les ont piquées, tout simplement. Mais en fait, ils ont quand même beaucoup acheté. Et le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est retourné. Aujourd'hui, le Japon est exportateur de technologies, il n'est plus importateur. Donc ça veut dire qu'ils sont retournés dans le créatif, mais ils sont plus dans le créatif productif que dans le créatif innovation pure et dure. Pendant que je vous parle, je me suis écarté. Et puis il y avait un autre sujet qui m'a toujours fasciné, c'est que le Japon, à l'époque, était, quand je suis arrivé, c'était un pays assez sous-développé hein, en termes d'infrastructures. C'était vraiment très très moche, quoi, pour être clair. Et depuis, ils ont embelli leur ville progressivement. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'était une ville en construction. un pays en construction, avec beaucoup de défauts, honnêtement, parce que là, j'enjolive les choses, mais le Japon n'a pas que les qualités, hein, et, y compris sur ce plan-là. Mais c'était quand même un pays qui se construit, qui est en devenir, qui est, et si on voit les centres-villes, en particulier les centres de Tokyo, depuis 20 ans, ils ont créé des environnements urbains qui sont exceptionnels, en termes qualitatifs, exceptionnels. Notre défense à Paris, c'est vraiment d'une grande pauvreté par rapport à ce qu'ils ont fait dans le centre de Tokyo et à la périphérie de Tokyo. Et ça, ça m'a toujours plu, cette espèce de... Plutôt que le Japon traditionnel et les tatamis et tout ça, moi, c'était pas mon truc, c'était plutôt de voir cette espèce de capacité qu'ils ont à développer un environnement et à anticiper l'avenir comme ça, de manière aussi efficace. Ça, c'est quand même prodigieux, quoi. Alors, à l'inverse, Paris, c'est une ville de pierre, c'est très joli, mais on est enfermé dans les pierres, quoi. Il y a une espèce d'oppression de la pierre qui est terrible, quoi, par rapport à... Enfin, c'est vrai, quand on est sur les quais de Seine, c'est pas vrai, mais il y a quand même un poids du passé qui est une espèce de une lourdeur qu'on va pas trouver ici. Je veux pas... Oui, mais c'est vrai que j'adore Paris, je trouve ça magnifique. C'est quand même c'est un musée, quoi. Donc c'est très bien le musée, j'aime bien le musée, mais je préfère les projections vers l'avenir, c'est vrai. C'est vrai.
Oui, vous êtes un homme d'avenir, de construction, de liberté. Et en parlant de projection d'avenir, comment est-ce que vous vous projetez dans les années qui viennent? Qu'est-ce que vous vous souhaitez à vous-même?
Ben pour l'instant, je ne prends pas de décision. D'abord, je pense que je suis encore beaucoup trop jeune pour prendre une décision. Ou plutôt, c'est ça qui me fait rester jeune. Mais en fait, j'hésite un peu parce que professionnellement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que le fait de pas être de plein exercice commence à me fatiguer un peu. Si j'avais l'opportunité de revenir à Paris, pas forcément de manière permanente, mais d'être plus présent à Paris pour, cette fois-ci, aider les Japonais à s'implanter dans mon droit français, et d'avoir la capacité d'être de plein exercice, je me serait agréable. Voilà. Et donc, en plus, en dépit de ce que je vous ai dit du Japon et de mon amour pour ce pays, j'aime bien la France et j'aime bien sa fantaisie et j'aime bien l'art de vivre à la française et j'en ai besoin aussi. Donc, je m'en suis un peu privé. J'en viens souvent en France, si vous voulez, mais dans ma vie quotidienne, les dîners entre amis à la française, c'est quelque chose qui est quand même assez exceptionnel, quoi. Et donc, on peut le retrouver ici, mais c'est pas la même chose. J'ai beaucoup d'amis, etc., mais c'est pas la même chose. Et là, les vacances à la française, qu'est-ce que vous voulez, c'est incomparable, quoi. Donc, les qualités de l'art du vivre à la française font que de temps en temps, mon côté un peu dilettante me repousse à aller plutôt vers la France. Donc, je suis partagé entre comment organiser mon temps pour être un peu plus en France. Et c'est plutôt ça mon idée. Et donc, ça veut dire soit y organiser professionnellement le moyen d'y être plus, c'est-à-dire de créer pour mon cabinet japonais une présence plus forte à Paris. Ce qui était d'ailleurs le chemin que je prenais. Le problème, c'est que ce virus-là compromet pas mal les projets, puisqu'en fait, on ne sait plus du tout ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et donc, ça repousse au moins d'un an tous les projets que je pouvais avoir à cet égard. Donc, c'est un peu embêtant. Mais je réponds à votre question de manière pas comme ça. Je pense que c'est comme ça, mais je vois pas de manière de si je finis ma vie au Japon, qu'on me demande comme ça, on pose la question est-ce que tu finiras ta vie au Japon? D'abord, je trouve une question comme ça c'est épouvantable. Enfin, vous l'avez pas posée, donc je vous remercie, mais
J'étais en train de me questionner sur la manière dont j'allais formuler ma question et en plus, c'est pas ce qu'il y avait derrière mon esprit.
Je sais bien, mais la question m'est posée dans le temps. Non, j'ai pas dit, d'abord, je me pose pas la question en ces termes, mais j'ai pas, je veux pas répondre à la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je peux être plus souvent en France pour plus profiter de la vie à la française, que je crois avoir mérité finalement avec le temps. Voilà. Et c'est vrai que je suis plus à l'aise maintenant en France que je ne l'étais il y a 40 ans, ça c'est clair. Que j'ai, bon, j'ai un peu mûri, quoi. Puisque j'ai fait au Japon, bon, fait que maintenant, enfin, j'ai plus besoin d'afficher quoi que ce soit, donc ça rend les choses plus faciles.
Mm-mm. Quelle est votre dernière joie, Laurent ?
La dernière, ça veut dire dans le temps ou la dernière ?
La dernière joie que vous avez éprouvée. Plutôt dans le temps, donc la plus récente.
Ah, vous êtes dur là, mais je pense que c'est les joies, je les ai. Ça vous paraît un peu bizarre, mais c'est des joies un peu intellectuelles. Enfin, je pourrais parler d'autres joies, mais c'est des joies intellectuelles. Il se trouve qu'avec le décalage, je peux écouter France Culture la nuit. Et France Culture la nuit, vous avez la chance extraordinaire, c'est d'avoir les programmes des années 60, des années 70, parfois j'éprouve soit des philosophes, soit des écrivains, c'est souvent le cas, soit des cinéastes qui expriment des choses qui me ravissent totalement. Et puis, ça m'arrive aussi récemment, puisque je suis confiné, donc j'ai un peu plus de temps pour regarder les films, je retombe sur des films des années 50 aussi, et on tombe sur des choses absolument extraordinaires où la vie était, il y avait une légèreté à l'époque, une espèce d'élégance aussi qui me convient. Ce sont des joies que j'ai, qui sont des un peu nostalgiques, si vous me permettez.
Ben, c'est comme ça que vous vous raccrochez au jeune homme qui envisageait de faire de la sociologie au sortir de son lycée.
Peut-être, oui. C'est un cercle. Oui. Enfin, à mon avis, le cercle, il n'est pas encore bouclé. Hein.
Ben, j'espère bien qu'il n'est pas bouclé, mais en tout cas, c'est une manière pour vous de vous connecter à cette partie-là de votre être.
Non, et puis, il y a un dernier truc, si vous me donnez encore une minute, c'est l'écriture, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé écrire. Alors, comme dans mon métier, j'écris tout le temps, ça me prend un peu de mon énergie, mais j'écris beaucoup. Donc,
qu'est-ce que vous écrivez ?
J'écris genre journal, donc ça c'est vraiment très très... Et puis j'ai commencé à travailler sur un abécédaire, du Japon, où là je vais essayer de... Enfin, j'ai commencé pas mal à regrouper justement tout ce que j'ai fait écrire au fil du temps sur le Japon pour justement un peu retracer ce que j'évoque là. Et puis j'avais écrit d'ailleurs un livre, on m'a demandé d'écrire un livre, mais il y a très très longtemps, il y a une vingtaine d'années, sur ce que pense un Français du Japon. Et j'avais écrit à l'époque une soixantaine de pages à peu près, et qui, rétrospectivement, m'amuse, parce que c'est des choses que je pourrais plus dire aujourd'hui, mais qui ont été dites. Donc j'essaie de raccrocher ça au temps d'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui pour l'instant, m'occupe l'esprit et honnêtement m'amuse, quoi. Et j'espère que je vais avoir l'énergie pour en faire quelque chose d'un peu... Mais j'ai déjà l'éditeur, ce qui est pas mal.
Ben, c'est un bon début, pas à pas, les choses progressent. Et alors, c'est une question un peu étrange, puisque au Japon, vous n'avez pas de robe, mais ma question de fin habituelle est: qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Du coup, j'ai du mal moi-même à préciser ma question, mais en tout cas, vous êtes quand même avocat, donc que portez-vous sous votre robe ?
Oui, il n'y a pas de robe, on a simplement une espèce de petit écusson ou une espèce de écusson qu'on accroche à la boutonnière qui permet de rentrer au palais comme ça. Enfin, c'est un passe-droit pour rentrer au palais. Mais c'est simplement un écusson, donc il n'y a pas du tout ce formalisme. Les juges ont des robes, mais pas les avocats. Donc les avocats sont dans leur tenue habituelle. Quoi.
Et votre robe française ?
Et la robe française, je l'ai filée à un copain et elle a disparu.
Elle a disparu.
Oui. Mais donc, quand il m'est arrivé de revenir à Paris pour plaider, et donc j'ai dû en louer une fois. Et, deux fois, j'ai dit. Non, là, une fois, j'ai un de mes amis qui m'en a prêté une, et puis l'autre fois, je l'ai loué. Mais sinon, j'ai plus le droit, mais c'est pas très grave. Si jamais je reviens à Paris, je ferai ce qu'il faut.
Oui, oui. Non mais c'est amusant. Merci beaucoup Laurent.
T'en prie.